Voilà, bonjour. Donc, nous allons reprendre et continuer sur ces 10 enseignements qui correspondent à l'ADN. On a parlé du royaume de Dieu, de la moisson, de l'ecclésia, de la restauration de l'Église, du mandat apostolique de l'Église. Et maintenant, on va rentrer beaucoup plus de manière personnelle et on va parler sur la Trinité ou la Triunité. Vous voyez ? Le mot Trinité vient du latin Trinitas, où l'élément tri signifie trois. La doctrine chrétienne s'appuie sur la triunité ou la tripersonnalité de Dieu. Vous voyez, comme le mot lui-même n'apparaît pas dans la Bible, certains, et surtout dans les sectes, soutiennent que ce n'est pas biblique. Mais nous allons voir que c'est tout à fait biblique. Cette réalité de la Trinité, de la triunité, se retrouve dans toute la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Trinité ou la triunité ? La Trinité est l'idée selon laquelle Dieu est l'unité même, composée de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Dieu le Fils, Jean 1, 18, Dieu le Fils unique. Dieu le Saint-Esprit, Jean 4, 23, Dieu est Esprit. Vous voyez, la création nous parle du Créateur. Pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas de polythéisme, donc plusieurs dieux, il suffit de se référer à la création. Cette création reflète le Créateur et nous fournit de nombreux exemples où l'un est un composé de trois. Par exemple, le soleil est une étoile composée de feu, de lumière et de chaleur. Un soleil, mais composé de feu, de lumière et de chaleur. L'eau peut se représenter sous trois états, solide, donc la glace, la neige ou la vapeur. En chimie, l'eau est également composée de deux molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. O égale H2O. Il y a aussi l'image du triangle, trois côtés, mais un seul triangle. Donc il n'existe donc qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le récit de la Genèse, le Créateur emploie le « nous » pour parler de lui, ce qui illustre bien cette diversité dans l'unité. Genèse 1:1 qui nous parle du Dieu Créateur, au commencement Elohim, le Dieu pluriel. Genèse 1:2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Genèse 1:3, Dieu dit, Dieu créa le monde par sa parole. Dans son évangile, Jean révèle que la parole n'est d'autre que Jésus-Christ lui-même. Jean 1:14. Ainsi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, voyez, étaient également présents dès le commencement. On peut aussi voir que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé d'après le principe de la Trinité. L'homme est un corps, âme et esprit. On peut reconnaître un homme d'après son aspect physique, d'après son caractère et son intelligence, voyez, son âme qui est composée des émotions, de sa pensée, voyez, mais également de ce qu'il y a de plus élevé en lui qui lui permet de communiquer avec le monde spirituel et de recevoir des informations de ce monde, à savoir son esprit. L'homme ne peut pas vivre sans l'une de ces dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'homme est la meilleure illustration que la création peut nous donner, cette triunité. Le christianisme est issu du judaïsme qui est une foi monothéiste par opposition au polythéisme ambiant des religions qui entouraient. Et non seulement on trouve la réalité dans la création, dans un Dieu créateur, dans l'homme créé à l'image de Dieu, mais aussi dans plusieurs textes bibliques, notamment du Nouveau Testament, où il nous a parlé de plusieurs formules trinitaires. Matthieu chapitre 28, verset 19, « Le baptême se fait dans le nom, singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez, ces trois réalités, le Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père et le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2 verset 18. Car pour lui, donc Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous prions le Père au nom de Jésus-Christ, voyez, par un même esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. L'apôtre Paul, dans ses recommandations, voyez, au chapitre 4, et à partir du verset 17, nous dit d'imiter Dieu, d'apprendre de Christ et de ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Éphésiens 5, 18 à 20, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous rendons grâce à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 6. Vous trouverez toutes ces références hein, sur le texte qui est avec le format audio. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 14, Paul décrit la Trinité comme prenant l'initiative du salut en fournissant à la fois les moyens et le but. Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 à 2. Aux élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous voyez, dans tous ces passages, on retrouve la réalité de la triunité, de la Trinité. Trois personnes, Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Fils, le Rédempteur, celui qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a rachetés par son sacrifice, mais aussi Dieu le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la sanctification et qui est appelé le Consolateur. Lors du Concile de Constantinople en 381, s'appuyant sur les déclarations du Concile de Nicée en 325, et face à toutes sortes de montées d'hérésies, il a été décidé par ce Concile, nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser l'être divin, car il y a une personne du Père, une personne du Fils et une personne du Saint-Esprit, mais la déité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une. Et c'est cet auteur très connu de C.S. Lewis qui dit ceci, notre compréhension est limitée en tant qu'humain, voyez, mais l'important c'est d'être véritablement attiré au sein de cette vie en trois personnes, ce qui peut commencer à tout moment, maintenant et si vous le voulez. Voyez, alors que nous parlons de la Trinité, il y a cette compréhension limitée, mais le but de cet enseignement, c'est que vous puissiez être attiré au sein de cette vie de la Trinité en trois personnes, voyez. Être attiré dans la vie de la grâce de Jésus, la plénitude de la grâce de Jésus, la compréhension de l'amour du Père et aussi avoir une communion avec le Saint-Esprit. Voyez, la doctrine de la Trinité a une importance dans ma vie parce qu'elle apporte un éclaircissement sur la nature de Dieu, un en trois personnes, et sur sa façon dont il agit et réagit avec sa création. Premièrement, la Trinité nous montre que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de créer. Les trois personnes de la Trinité existaient avant la création de l'univers. Pour aimer et communiquer, Dieu n'était pas obligé de créer. Les trois personnes de la Trinité étaient la première communauté, la première famille. elles s'aimaient communiquer entre elles avant que l'univers ne soit créé. Deuxièmement, ceci nous apprend que trois modèles essentiels sont nécessaires pour exprimer la plénitude et la profondeur de l'expérience chrétienne et de la connaissance de Dieu. Voyez, une seule image, une seule représentation, un seul modèle ne peut suffire. Il nous faut les trois modèles essentiels dans notre compréhension chrétienne de Dieu. Le premier modèle est celui d'un Dieu qui se trouve au-delà du monde, dont il est la source et le créateur. Le deuxième est le visage humain de Dieu. Jésus est le visage de Dieu, révélé dans la personne de Jésus-Christ. Le troisième est celui d'un Dieu qui est présent et actif dans sa création, et c'est ce que nous parlons du Dieu, le Saint-Esprit. La doctrine de la Trinité confirme que ces trois modèles concourent à donner aux chrétiens quelques aperçus essentiels sur le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous voyez, c'est le Père qui a ressuscité son Fils au travers de la personne de Jésus-Christ. Aucun d'eux pris séparément ne saurait rendre compte de la richesse de l'expérience chrétienne de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et troisièmement, c'est le Dieu trinitaire qui répond aux besoins psychologiques profonds de l'être humain. Nous avons tous trois besoins fondamentaux. Nous avons besoin de repères, c'est-à-dire de savoir qui nous sommes et d'où nous venons et nous où nous allons. Vous voyez, de repères. Et c'est pour ça que le Père nous dit, Jésus, il savait d'où il venait, où il allait, qu'est-ce qu'il devait faire. Et c'est très important pour le fonctionnement de notre identité. Deuxièmement, nous avons besoin d'un modèle, d'un exemple qui est ce modèle parfait qui est Jésus-Christ. Et troisièmement, nous avons besoin d'un conseiller qui nous guide, qui nous conduit dans toute la vérité, d'un conseiller pour nous aider à y arriver. Ainsi, la Trinité répond aux besoins psychologiques profonds de tout être humain. Dieu personnel est trinitaire. C'est pourquoi il nous faut expérimenter la grâce de se savoir aimer et pardonner. Lorsque l'homme rejette Dieu, il part à la dérive, il perd le sens de l'existence. C'est pourquoi nous étions tous privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et nous étions à la dérive, nous étions errants. Quatrièmement, la doctrine de la Trinité me concerne en ce qu'elle enseigne que tout acte de la révélation de Dieu a un caractère triple, ce qui exige que nous pensions la nature de Dieu en termes trinitaires. Par exemple, le baptême, comme dans le baptême, la grâce, le salut, voyez, la notion de l'élection, de l'éthique, de l'adoration, de l'unité est décrite en termes trinitaires. Tu te seras baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par exemple, la grâce, voyez, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi et par l'œuvre de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Voilà, si nous voulons comprendre Dieu et toutes les doctrines relatives à Dieu, il nous faut penser à cette manière. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 3, un texte, je dirais, très important. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, à méditer ce texte, afin que vous ne puissiez pas rester au niveau de la superficialité de cette réalité, mais que vous puissiez entrer dans la profondeur de la Trinité et être attiré par cette vie de la Trinité. Je peux vous assurer, ça sera une vie, voyez, de plénitude et de résurrection. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, voyez, dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Donc nous voyons la notion du Père, l'apôtre Paul qui fléchit les genoux devant le Père. Il nous parle d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur et que le Christ habite en vous, que l'amour du Christ, voilà, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, la plénitude de l'Esprit est une expérience de la paternité de Dieu. Paul adresse sa prière au Père, qui est celui qui amorce ce processus. Dans Romains 8, il nous est dit, eh bien, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez Romains 8, 14 à 16. C'est aussi une expérience non seulement de la paternité de Dieu, mais c'est une expérience de l'amour de Christ. Paul prie que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelles sont les dimensions, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez Éphésiens 3, 17 à 19. C'est aussi une expérience de la puissance de l'Esprit, vous voyez. Une expérience, eh bien, de la paternité de Dieu, une expérience de l'amour du Christ et une expérience de la puissance du Saint-Esprit. Paul prie que Dieu les fortifie puissamment par son Esprit dans l'homme intérieur. Et c'est la puissance que Jésus a promise à ses disciples par ses dernières paroles, voyez. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Esprit Saint nous remplit, nous faisons par l'expérience de la paternité de Dieu, de l'amour de Christ, la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi les trois ne peuvent être séparés? Dieu demande que son Esprit Christ et la plénitude de Dieu les remplissent. Les trois sont un et un est en trois. Dieu ne se comprend pas par la pensée seulement, par l'intelligence humaine, mais il se vit dans notre cœur et dans notre existence. Être rempli de l'Esprit, c'est expérimenter Dieu dans sa Trinité. Donc soyez remplis du Saint-Esprit pour faire partie, pour expérimenter la paternité de Dieu, pour expérimenter l'amour de Dieu et pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Alors comment la Trinité est-elle une? Quelle relation cette Trinité entraîne-t-elle en elle-même? Il existe, ces trois personnes de la Trinité, une communion, une unité parfaite. Jean 17, verset 22. « Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Voyez, l'amour unit parfaitement ces trois personnes, et chaque personne donne tour à tour gloire à l'autre. La Trinité constitue la forme la plus élevée du gouvernement de l'univers. Cette Trinité fonctionne selon deux axes qui constituent la dynamique de l'unité. Il y a un axe horizontal où les trois personnes de la Trinité jouissent d'une co-égalité. Moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30. Mais il y a aussi un axe vertical. Vous voyez, sur cet axe horizontal s'exerce, eh bien, dans un conseil mutuel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous aurez des diagrammes sur le texte papier. Père, Fils, Saint-Esprit, égalité. Mais il y a aussi un axe vertical, hiérarchique, sur lequel le Père semble détenir la position la plus élevée, suivie du Fils, qui est soumis au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 11, 3. Dieu est le chef de Christ. Le Fils incarné est soumis à l'Esprit. Voyez, au Saint-Esprit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit est soumis au Fils dans la gloire. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et donc, ces deux axes forment une croix. Père, Fils et Saint-Esprit, un axe de coégalité, mais il y a plus un axe de fonctionnement et de responsabilité, un axe vertical, Père, Fils et Esprit. Tout ce que Dieu destine à l'unité fonctionne sous le signe de la croix. Double axe de gouvernement. Par exemple, le gouvernement du couple. L'homme et la femme sont égaux. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais dans ce gouvernement de couple, coégalité, axe horizontal, égalité de l'homme et de la femme, il nous est dit que l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11, 3. Cependant, eh bien, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, la Bible reconnaît que cette position d'autorité, aussi longtemps que celle-ci s'inspire des relations qui existent en Dieu, et c'est une relation d'amour, voyez, l'unité dans l'amour, dans la responsabilité. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Voyez, on reconnaît la coégalité homme-femme dans le conseil et le discernement, mais il y a un ascendant du mari sur la femme aussi longtemps que le mari est prêt à aimer sa femme au point de mourir pour elle. Voyez, cet ascendant s'exprime ou cette responsabilité par le fait que le mari est le représentant et le responsable du gouvernement du couple devant Dieu. Il y a aussi le gouvernement de la famille. Voyez, il y a égalité, eh bien, des membres de la famille entre les parents et les enfants, par exemple. Hein. Mais eh bien, les parents forment le gouvernement de la famille. Enfants, soyez soumis à vos parents, voyez. Le gouvernement de l'Église, il y a égalité entre les membres d'une Église. Nous sommes tous aimés de Dieu, pardonnés, égaux devant Dieu. Voyez, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons que les anciens forment le gouvernement de l'Église. Voyez, la soumission, et si on réalise que la soumission est d'une protection, alors on cherche à être soumis à quelqu'un eh bien, qui nous aime, qui veut prendre la responsabilité de l'éducation, de notre croissance spirituelle. La soumission nous parle de protection. Soumission, c'est ma mission et sous la mission de quelqu'un d'autre. Voyez, le centenier a compris Matthieu 8, 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je le dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens, il vient, à mon serviteur, fais cela et il le fait. Voyez, il avait réalisé cette notion eh bien, de soumission et d'autorité et de responsabilité. 1 Pierre chapitre 5 verset 5, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Voyez, la mission des ministères n'est pas de servir une volonté individuelle ou de servir la volonté de Dieu dans une vie. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, l'Église possède un gouvernement composé d'une pluralité d'anciens, dans lesquels, dans la mesure du possible, nous souhaitons retrouver les cinq ministères. C'est pourquoi nous parlons des cinq, d'une équipe de ministères qui sont là, qui ont cette responsabilité et qui correspond au gouvernement de Dieu, voyez. Et nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes, pour avoir une position de titre, de pouvoir, mais nous sommes là pour aimer, nous donner à l'Église et être serviteurs de l'Église afin que chacun parvienne à une pleine stature de Christ. Voyez, il nous est parlé donc de cette réalité, eh bien, de ce gouvernement dans l'Église qui est aussi assisté par une équipe diaconale dans le service. Il y a le gouvernement des cinq ministères, il y a égalité entre les ministères d'Éphésiens chapitre 11. Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, il y a coégalité. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, voyez. Il y a coégalité des cinq dons de Christ. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les pasteurs et les docteurs, ce n'est pas des titres, voyez, honorifique ou hiérarchique, mais c'est plutôt des onctions qui libèrent une fonction apostolique, prophétique, pastorale, enseignant, d'évangéliste, voyez. Mais il y a, dans la parole de Dieu, dans ce gouvernement, il y a aussi les apôtres et les prophètes qui forment le gouvernement du quintuple ministère. 1 Corinthiens 12, 28, il s'agit non pas d'un ordre hiérarchique, je le répète, mais d'un ordre de fonction. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, eh bien, des docteurs, Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Voyez, chers amis, eh bien, il y a coégalité, mais il y a un fonctionnement qui requiert, eh bien, comme une chaîne de responsabilité qui est là, de protection, afin que nous puissions vivre dans la plénitude de l'unité, voyez, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous voulons vivre, qu'ils soient un, comme nous sommes un, voyez, le Père, toi qui es en moi, et moi qui suis en toi, et nous devons rechercher cette unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'aimerais simplement prier pour terminer, parce que c'est tellement important. Et après cette étude, nous allons affiner, hein, voyez, nous allons parler de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de l'amour du Père. Nous allons parler de la communion avec le Saint-Esprit. Nous allons parler dans la dernière leçon, eh bien, comment être aligné avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais j'aimerais prier afin que vous puissiez entrer dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans la plénitude du Saint-Esprit. Et je vous invite réellement à ne pas être dans la superficialité, mais à rechercher la profondeur de la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que vous puissiez entrer dans une maturité, dans un disciple mature, rempli du Saint-Esprit, rempli de la connaissance du Dieu trinitaire. Et je prie que vous puissiez faire l'expérience, eh bien, de la paternité, de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu libères la révélation, que tous ceux qui écoutent, eh bien, cette étude, au-delà d'une étude biblique, nous voulons que ces choses soient révélées par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que mes bien-aimés puissent entrer et faire l'expérience de la paternité de Dieu. Seigneur, je suis en sécurité parce que j'ai un Père, j'ai un Dieu qui m'aime, j'ai un Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, qui a envoyé le Saint-Esprit. Entrez dans l'expérience de la paternité de Dieu. Aussi, j'invite le Saint-Esprit à révéler la réalité de la justification, la réalité, eh bien, de l'amour du Christ, de la grâce de Jésus, cette plénitude du salut. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour aller au ciel ou pour échapper à l'enfer. Nous avons été sauvés pour être introduits dans le plein salut, dans la guérison, dans la délivrance, dans la réalité d'être un témoin de Jésus-Christ, d'être transformé à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, je prie pour faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Or, que vous puissiez faire au-delà, Dieu peut faire au-delà de ce que vous pouvez penser, eh bien, et demander. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Voyez, entrez dans la profondeur de cette vie de la Trinité. Soyez attirés par cette vie de la Trinité et entrez dans la profondeur de la plénitude, dans la plénitude. Soyez bénis. Commencez à prier, commencez à être rempli du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, soyez rempli du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est expérimenter Dieu dans sa Trinité. Commencez à l'adorer en esprit, en vérité. Commencez à être dans la reconnaissance. Commencez, eh bien, à parler en langue. Commencez au travers de votre bouche à confesser la réalité d'un Dieu trinitaire, d'un Dieu Père, Fils et du Saint-Esprit. Et ainsi, vous allez rentrer dans la plénitude, eh bien, de Dieu. Soyez bénis.